Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciade, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Greg Lamazère. Bonjour.
Bonjour.
Pour son dernier livre qui s'intitule « Dernier round à Neuengamme » aux éditions Priva. On va en parler avec lui dans quelques instants, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos, juste pour vous rappeler que Dominique Delpirou a sorti son dernier roman qui s'appelle « Légionnaire Victor » et il sera présent le lundi 11 mai à 17h30 à la FNAC Wilson et le mercredi 13 mai à 18h à la librairie de la Renaissance qui se situe 1 à Allée Marc Saint-Saëns, métro Basso-Cambo. Et puis également une rencontre avec Julien Campredon, que nous connaissons également ici à Page à Page. Il sera à Carcassonne le samedi 16 mai à 10h30. Alors vous allez me dire, Carcassonne c'est un peu loin, mais bon, le temps d'un week-end ça peut être sympa. Alors ça sera à la librairie Mots et Compagnie, qui se situe 35 rue Armagnac. L'entrée est libre, bien sûr. Et pour cette rencontre, eh bien, Julien Campredon nous lira quelques extraits de son recueil de nouvelles « Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes ». Voilà pour les infos.
Page à page, Claire Ambille. Pou, pou, pitou.
Ben, je n'avais vraiment pas beaucoup. Aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le dernier livre de Greg Lamazère, Dernier round à Neuengamme. Alors, on va commencer déjà pour au cas où il y a des gens qui vous connaissent pas encore, mais ça m'étonnerait à mon avis, il y en a pas beaucoup.
Oh, mais il en reste.
Oui, ben alors bon, pour cela.
Des foyers de résistance.
Alors pour cela, on va dire Greg Lamazère. Donc vous êtes toulousain déjà.
Oui.
Journaliste,
oui.
Reporter.
Oui.
À TLT.
Voilà, depuis 18 ans.
18 ans, mais vous avez fait aussi beaucoup d'années radio. Vous avez eu des années radio à Toulouse.
Oui, j'ai travaillé à Sud Radio, à TSF 102.
Voilà, donc vous êtes habitué au micro.
Oui.
Et puis alors, donc vous êtes musicien, amateur de blues et musicien, joueur d'harmonica et de guitare.
Tout cela est vrai.
Ah, j'ai pris des bonnes infos, hein. Et puis bon, vous avez eu le temps aussi d'être papa, hein, parce que vous avez 3 enfants, hein, ce qui n'est pas rien non plus.
Vous l'avez dit.
Et puis vous lisez beaucoup, puis vous écrivez beaucoup aussi.
J'ai écrit beaucoup.
Là,
je pense
encore,
que je vais mettre un frein à toute
bon
cette histoire.
Oh ben non.
Si, je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais sur le cœur.
Bah, il y a encore plein de choses
ouais
à dire.
C'est comme, c'est un travail que j'ai entrepris, un déclic que j'ai eu en travaillant sur mon grand-père il y a...
Sur la
maintenant
biographie de
12
votre...
ans, mon grand-père ouais. Pierre Bourtoumieux, qui était un résistant qui était mort dans un camp. Et tout ce qui a suivi après, c'était les suites de ce travail. Donc c'est une sorte de fardeau que je porte et tous ces livres, c'est des missions sur Terre. Ça fait grandiloquent de dire une chose comme ça, mais il y a un peu de ça. Il y a une sorte de mission sur Terre. Ça a été mon baptême aussi. J'ai essayé d'être meilleur. Enfin, une fois sorti de l'eau...
Vous pensez y être arrivé ?
Non, une fois sorti de l'eau, on est tout sec à nouveau.
Mais en tout cas, moi j'aime bien ce que vous écrivez, alors ça serait bien que vous continuiez quand même. Hein.
Quand je serai à la retraite, quand j'aurai du temps.
Ah, bien, vous aurez encore le temps, hein. Quand même.
C'est alors, vrai, de plus en plus de temps.
Écrivain, donc comme vous l'avez dit, biographie, mais aussi des romans, des nouvelles, vous avez fait un peu tous les genres.
Bah, la forme, selon ce que j'avais à raconter.
Alors justement, je vous avais reçu il y a à peu près 3 ans, je crois, pour l'Arc des Soviets, édité chez Priva.
Oui.
Et puis là, vous avez écrit récemment, entre autres, hein, un recueil de nouvelles qui s'appelle « Les saisons d'Osgore ».
Oui, il est paru au printemps dernier. Oui.
Au printemps dernier, aux nouvelles éditions Loubatière. Moi, j'ai bien aimé aussi. Hein. J'en ai lu une, surtout, qui m'a bien plu, c'est Une nuit basque. Ou alors, on se rend compte que Parisien et Pays basque, ça ne fait pas le bonheur.
C'est une des blagues de ces nouvelles qui en contiennent quelques-unes. Bon, il y a des tragédies aussi. Ça raconte les Landes à travers le temps et à travers une série de personnages. Certains sont connus, François Mitterrand, François Sagan, Paul Claudel. Mon grand-père, à nouveau, et d'autres sont des inconnus, sont les gens d'Osegore.
Des personnages qui vous ont marqué, enfin qui vous...
Soit marqué positivement, soit marqué négativement,
oui,
qui j'avais envie d'écrire des blagues, comme Paul Claudel, que je montre se jetant tout nu dans les rouleaux de l'océan.
Oui. Et Osegore, c'est une région qui vous tient à cœur?
J'y suis allé souvent.
Oui.
Faire toutes sortes de choses, depuis tout petit, mais maintenant que le livre est... Bah, je ne peux plus y aller. Je suis persona non grata.
Oui, voilà, vous avez dévoilé des choses qui ne... donc vous ne pouvez plus y aller.
Non.
Bien, c'est un recueil de 10 nouvelles, donc Les Saisons d'Osegor, édité aux nouvelles éditions Loubatière. Et puis donc vous avez sorti aussi l'année dernière Bluesman.
Oui.
Un petit livre sur...
C'est un roman sur la quête du blues, en quelque sorte. C'est... J'ai mis en forme ce que j'ai sur le cœur depuis que j'ai découvert le blues des Noirs américains quand j'avais 9-10 ans. Donc, et c'est un roman aussi sur l'instrument que je vénère, qui est l'harmonica.
Ah oui, d'ailleurs, vous en jouez très bien, hein. Je vous ai vu un...
Ah oui,
un
c'est jeu. Vrai.
Oui, oui,
merci, c'est gentil. Et ça, c'est paru chez l'Écarlate, l'Harmattan.
D'accord. Et puis, plus récemment, en même temps, en fait,
en même temps que
le dernier round à Neuengam, vous avez sorti, donc...
Un livre, si j'osais, je ferais une mauvaise blague, qui est la fièvre porcine, c'est Taxco du Mexique. Taxco, c'est une ville qui est au sud de Mexico. C'est une ville très, très touristique. C'est la ville de l'argent. Il y a beaucoup de commerce d'argent parce que c'est une longue histoire de mines d'argent. D'accord. Et c'est une ville touristique, à la fois espagnole et indienne, qui a été bâtie, dont la fortune a été bâtie sur le sang des Indiens qu'on tuait dans les mines. Donc, ça raconte ça. Et surtout, ça raconte le voyage de presse que j'ai fait au Mexique et à Taxco il y a plus de 10 ans.
D'accord, vous
sous une forme tragicomique, hein, encore.
D'accord, c'est un peu une comédie, quoi, une satire.
Voilà,
un peu,
oui, quelque chose comme ça.
Et vous y aviez été pour un voyage, pour votre travail. Vous
oui.
aviez été.
Oui, on m'avait envoyé là-bas pour voir les artisans mexicains. Mais j'ai fait tout autre chose. Et je le raconte. En même temps, c'est un hommage aux grands écrivains qui ont écrit sur le Mexique. Ils sont nombreux, comme Malcolm Lowry. Comme il y a même Tortillas pour les Dalton qui est cité, Yves Berger.
Ah oui, donc c'est...
D.H. Lawrence et les autres.
Très bien, donc voilà.
La couleur de l'argent, ça s'appelle. Taxco du Mexique.
D'accord.
Aux éditions de la Louve.
De la Louve, oui, une édition de notre région.
Oui.
Voilà, pas très loin de chez nous. Hein. Et alors, donc, on va revenir eh bien, à celui pour lequel nous sommes là ce matin, un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, Dernier Round à Neuengamme, l'histoire de Johann Trollmann, ce boxeur tzigane allemand sous le Troisième Reich. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que, bon, la boxe, c'est tout un art, hein, c'est un art à part entière, donc on rentre de plein fouet dans le monde de la boxe. Alors, moi, personnellement, j'aime bien, donc ça m'allait très bien. Et puis, on reparle aussi de cette période, eh bien, cette période noire de l'histoire, et que nul n'oublie bien sûr, et qu'il est bon de rappeler aussi que le peuple tzigane a lui aussi subi
un génocide.
Voilà, le génocide, oui. Il n'y a pas que les juifs.
Non.
Et c'est vrai qu'on a tendance, je dirais, un peu pas à l'oublier, mais à peut-être pas assez le dire.
Pour diverses raisons qui tiennent aux gitans eux-mêmes, qui tiennent aux chiffres. Malheureusement, ce n'est pas une histoire de score, mais le chiffre des victimes du nazisme juive est époustouflant, et le reste, malgré ceux qui voudraient nous le faire oublier, les gitans ont été moins nombreux et puis n'ont jamais parlé, comme à la fois toutes les victimes de ce genre d'horreur et puis comme les peuples qui refusent de voir leurs fantômes ressurgir.
Oui, ils n'aiment
avec
pas
un masque de mort.
Par rapport à la mort, hein, ouais. ils ont une attitude assez particulière.
On parle pas des morts.
On ne parle pas des morts.
Par respect, mais de peur qu'ils viennent, saccager le présent.
Déranger en un revanche, peu les vivants.
Oui. En revanche, maintenant, les gitans fréquentent beaucoup leurs cimetières et les plus belles tombes sont celles des gitans, souvent.
Ah oui?
Oui.
Et donc, oui, parce qu'il y avait, bon, donc il y a eu les juifs, bien sûr, les tziganes, mais aussi, bon, les handicapés, les homosexuels.
Ça a commencé par les handicapés
hein.
Et les tziganes,
oui,
véritablement,
hein.
Puisqu'on a commencé en Allemagne dès le 19e siècle. À regarder d'un mauvais œil les gitans qui habitaient l'Allemagne et à les répertorier. Et au début, ça partait sans doute de sentiments scientifiques. Et puis, le professeur qui avait travaillé sur le répertoire des gitans peuplant l'Allemagne, des gitans à la fois sédentarisés et des gitans nomades, ce répertoire a été confisqué par les nazis qui en ont fait une sorte de un élément de leur raciologie et leur a permis de classer... En même temps, et parfois même avant les Juifs, de classer les gitans selon la quantité de sang purement gitan qu'ils avaient dans le sang. Alors, ils étaient des asociaux, presque des animaux, au même titre que les handicapés mentaux. En tout cas, ils gênaient la marche nazie vers la pureté.
Vers la pureté.
Vers le grand fantasme.
Oui, le grand fantasme d'Hitler. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce livre aussi pour la construction, parce que c'est une sorte de biographie, on va dire. Hein. C'est une biographie, mais écrite un peu comme une histoire, hein, l'histoire de Johann Trollmann, donc avec une partie romancée, comme on l'a dit tout à l'heure hors antenne, et une partie voilà, très, très documentée. Et puis aussi l'histoire de cette époque, hein, sous Hitler. Et puis moi, j'ai bien aimé parce que c'est pas... On lit pas un cours d'histoire magistral avec voilà, on se retrouve pas à l'école à écouter un prof, non, c'est très fluide et c'est pas fastidieux du tout. Et surtout, bon, c'est pas non plus une biographie ronflante, parce qu'il y a des biographies qui sont un peu lourdes aussi. Et donc là, c'est pas du tout ça. Vous l'avez
écrit vraiment. J'essaie de coller au sujet.
Vraiment, c'est vraiment un livre souvenir, un livre hommage finalement.
Oui, mais c'est ce que les Américains appellent un non-fiction novel, un roman. Sur des faits réels.
Oui.
Norman Mailer a fait ça. Les grands Américains se sont rendus maîtres de ce genre. Et moi, j'ai essayé de coller au personnage, qui était donc une sorte de Mohamed Ali de son époque, un gitan, qui était bondissant, charmeur.
Oui, on va en parler.
Original.
Oui. Bon. Ah, oui,
et
oui,
alors,
oui.
J'ai essayé de que le style colle à chaque scène que je décrivais, et j'ai essayé de faire se croiser les voix et les témoignages, parce que, ayant travaillé pendant assez longtemps maintenant sur la résistance, par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, les années 30, et à partir de souvenirs de gens ou de témoignages, on s'aperçoit qu'un même événement, on le sait, mais quand on a le nez dessus, c'est encore plus flagrant, un même événement est vu différemment par les gens. Donc j'ai essayé de croiser les voix, on entend aussi son manager, Zirzo.
Oui.
Moi, par instant, je casse le récit pour... raconter des choses glaçantes sur ce qu'est la stérilisation, par exemple,
puisqu'il
a été victime de cette entreprise à grande échelle, pour montrer que le génocide de Tzigane a une histoire. Voilà, j'ai essayé de faire ça.
Oui, non, mais moi, justement, j'ai bien aimé parce que voilà, c'est écrit d'une façon bondissante, on peut dire, un peu comme la boxe, c'est à cette image. Puis bon, comme je disais, vous avez voulu quand même rendre un hommage à cette... À tous ces tziganes.
Oui, que je ne connaissais pas beaucoup. Donc effectivement, là aussi, pour moi, c'était une leçon à apprendre sur les êtres humains. Et tous ces gens que... Et alors, j'ai fait une rencontre avec le médecin des gitans, qui s'appelle, de son nom de gitan, le docteur Niglou. C'est un Toulousain qui
le vieux monsieur là du début.
Ah non, c'est un autre.
Ah non, c'est un autre.
C'est un autre.
D'accord.
Je l'ai rencontré récemment, celui-là, un personnage. Donc, dans la journée, il était médecin et le soir, il était médecin des gitans. Il allait gratuitement soigner les gitans. Il l'appelait le docteur Niglou. Et Niglou, c'est le hérisson chez les gitans. C'est l'animal totem des gitans et en même temps, il mange en brochette, en broche.
D'accord. Et ils enlèvent les.
En lisant le livre, il lui est revenu le fait. Je l'avais mis dans le livre, mais j'ai trouvé ça un peu trop dur. Néanmoins, ça ne l'est pas. Ça parle bien. Les gitans, c'est ceux qu'on met en France et un peu partout dans le monde près des déchetteries. Ouais. On leur alloue des terrains près des déchetteries, près des dépotoirs, près des stations d'épuration.
Ouais.
Vous voyez le genre, épuration, déchetterie.
Ouais.
Ça semble gros comme ça, mais
il suffirait
d'un nap à nouveau pour que, si ça va encore très 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 mal, parce qu'on commence à aller mal, mais on a encore du ressort, on est coulé dans une vie tranquille malgré tout, donc on est encore civilisé. Néanmoins, on a vu en Yougoslavie, quand on était jeunes tous les deux, ce qui s'est passé d'un coup de doigt, les gens deviennent fous. Les gens les plus civilisés, les plus européens deviennent complètement fous, et alors ils trouvent des boucs émissaires. Et ils s'en servent comme des punching balls, ce qui est arrivé à Johann Trollmann en Allemagne.
À la fin de sa vie.
En Allemagne, où les gitans n'étaient pas un peuple, mais au moins deux peuples, en tout cas des quantités de tribus, puisque c'est comme ça qu'ils sont organisés. Il y avait les synthés, c'est les manouches allemands.
Oui, voilà, il y avait plusieurs...
Ouais, qui étaient sédentarisés depuis longtemps. La famille de Johann Trollmann était bien intégrée, son père était policier, un de ses frères est entré dans la SA. Mmh. C'est dire...
Il y avait les Roms.
Oui. Et non, alors les Roms, c'est l'appellation aujourd'hui de tous les gitans du monde. Les synthés, c'est donc les manouches allemands, qui étaient venus de plusieurs siècles avant du nord de l'Italie. Et puis, il y a tous les nomades en roulotte, selon l'image populaire, qui traversaient l'Allemagne ou qui habitaient ici et là en Allemagne, les Lovara, les Calderaches, qu'on retrouve en Europe de l'Est aujourd'hui, et qui sont dans des ghettos en Europe de l'Est. et qui, pour la plupart, regrettent le temps de Staline et du communisme, car au moins, oui, 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 c'est un truc fou. Oui, parce que maintenant, sous des régimes libéraux et capitalistes, presque sauvages, ils se retrouvent dans des ghettos, sans médecine, sans être nourris, sans ANPE, là, dans ces pays, c'est n'importe quoi, dans la boue. Alors que sous Staline, ils avaient travail obligatoire. Tout le monde était nourri, école obligatoire, etc. Dans les pays de l'Est.
Ça fait un peu.
Vu sous cet angle. Oui, vu sous cet angle, c'est.
Alors donc ce livre, une belle photo de couverture. Hein. Moi, j'aime bien là, les mains bandées parce qu'on met des bandes comme ça quand on met.
Avant
de mettre les gants, voilà. Donc c'est une très belle photo qui illustre bien le. Ce qu'on va trouver dedans, et puis donc c'est 17 chapitres, hein, donc qui alternent l'histoire de John Trollman et l'histoire tout court finalement. Et donc on imagine que vous avez fait beaucoup de recherches, hein, 4 ans pour l'éclair à temps partiel comme vous m'avez dit, mais vous êtes beaucoup documenté, avez fait beaucoup de recherches sur ce.
Oui, ce que j'aime faire au départ, c'est chercher des choses que je ne sais pas. Et essayer de les comprendre et ensuite de les mettre en forme. Donc il y a un travail qui consiste effectivement à faire des recherches. J'ai même trouvé la famille de Johan Trollman en la personne de son petit-neveu, Manuel Trollman, avec qui j'ai correspondu par mail dans un mauvais anglais. Et il s'est avéré qu'il avait quelques éléments à me donner, mais j'en savais plus que lui au bout d'un moment. D'accord. Johan Trollman est un peu connu en Allemagne. Des artistes ont travaillé sur lui, un peintre. Donc son petit-neveu maintient un site internet à sa gloire. Les fans de boxe se sont préoccupés de lui rendre la médaille dont il avait été dépossédé. Et puis voilà, c'est une figure en Allemagne. Mais je pensais que c'était une bonne manière, une figure intéressante pour nous, même en France, pour découvrir ce génocide.
Ah oui, oui, tout à fait, ce que vous avez découvert. Nous, on l'apprend aussi en lisant ce livre.
Et en France, ils ne sont pas passés loin parce qu'il n'y a pas eu de. On ne les a pas internés dans des camps de concentration, mais si, on les a parqués dans des camps. Et d'ailleurs, une bande dessinée à succès est parue l'an dernier, elle s'appelle Digane, tout simplement, qui montre le sort qu'on a réservé aux gitans Digane, dans notre pays.
Ouais, j'imagine que ça doit être une BD un peu dure, satirique.
Oui, un peu à l'image du destin des gens qui sont mis à la poubelle.
Ben oui, c'est un peu ça. Et pourquoi Johan Trollman, vous êtes amateur de boxe, Greg Lavazer?
Légèrement amateur de boxe, de temps en temps amateur de boxe. Et puis la boxe, c'est un sujet dramatique qu'on a envie de traiter. Enfin, les grands films sur la boxe sont Légion. Les romans, les livres sur la boxe, ça donne souvent de grandes œuvres. On parlait tout à l'heure de Norman Mailer, mais il y a Joyce Carol Oates, il y a Battling Malone, une quantité de livres, George Amado à qui je rends hommage, et puis les films sur la boxe, c'est une matière dramatique. Récemment, c'est pas de la boxe, mais presque, c'est du catch. C'est plus grotesque, mais l'exploit, c'était que Mickey Rourke en fasse un film qui donne le frisson. Quand même, c'est le film dont j'oublie le nom momentanément. Donc il y a matière, c'est le combat et puis c'est le schéma classique selon lequel la civilisation judéo-chrétienne s'est fondée, gloire, déclin et chute. Et parfois après il y a une renaissance comme quand Jésus ressuscite. Malheureusement là c'est
une autre histoire.
Non mais c'est le même genre d'histoire qu'on raconte tout le temps. C'est le sacrifice, c'est le défi, et puis parfois, c'est la renaissance. Là, dans le cas de Johan Trollman, ça n'a pas été le cas.
Non.
Une balle dans la tête.
Ouais. Version non officielle, bien sûr, parce que la version officielle, c'est pneumonie.
On revenait de là avec, dans les carnets, dans les fiches, les répertoires des camps qui sont à la disposition des gens sur Internet. On voit les motifs. Voilà, tout est écrit. Alors, tout n'a pas été détruit par les SS lorsqu'ils ont fui les camps.
Ils n'ont pas bien fait leur travail.
Ils
n'ont pas eu le temps, oui, c'est vrai.
Les Russes leur mettaient la pression.
Alors donc, il est né, comme vous le disiez, Johan Trollman, il est né dans un petit village à côté d'Hanovre, et en 1907.
Oui.
Et donc, on dit qu'il est amateur de western et de jolies filles.
C'est vrai.
C'est vrai.
C'est sa légende. Quand il boxait, il...
Ah, il regardait les filles qu'il y avait dans les premiers rangs.
Il voyait si tout allait bien se passer pour lui après. faisait de bonnes blagues. Il était charmeur, naïf sans doute, un peu bondissant. Je le compare à la fois à Charlot, dans Charlot Boxer, et à Mohamed Ali, c'est un mélange
ah
des
oui,
deux.
oui. Bah d'ailleurs, il avait plusieurs appellations, Flèche d'or, le chat, pour la façon
oui.
leste qu'il avait de se déplacer, la guêpe, parce qu'il piquait
voilà.
pas mal.
Et peu de boxeurs, en ce temps-là, et encore aujourd'hui, avaient cette façon légère, prime sautière presque, de boxer. On était plus dans le pugilat encore, c'était
oui,
un sport jeune quand même, hein, dans ces années-là, surtout en Allemagne, qui commençait à avoir dans le sport des vertus, qui allaient être reprises par les nazis. Les boxeurs, en général, donc, étaient plutôt brutaux et des brutes. Il y avait Gentleman Jim, qui a commencé au 19e siècle à montrer qu'on pouvait boxer en ayant un cerveau, en tournant,
oui,
en élaborant des stratégies.
Il n'y avait pas que des muscles.
Voilà.
Voilà.
Et tout ça, ça plaisait beaucoup au public, ça plaisait beaucoup à la presse, jusqu'à ce que les nazis entrent en scène et considèrent que, un, ce genre de boxe, starifié par un gitan, donc un non pur, c'était insupportable.
D'ailleurs, il a été dépossédé de son titre de champion, donc pour des raisons raciales. Hein,
oui, bien sûr.
Il était considéré comme un déviant social.
Oui, comme tous les gitans.
C'est quand même assez... pareil, les gitans, il y a un médecin, vous le dites dans votre livre, qui disait, le docteur Hans Günther, qui disait « Les gitans ont introduit un sang étranger en Europe ».
Voilà, alors on pensait d'abord à les déporter dans une île, genre Madagascar, comme on pensait le faire pour les juifs, qu'on voulait... envoyés dans les steppes de la Russie, du fin fond de la Russie. Et puis finalement, ils ont pensé que la plus sûre solution, ça serait de stériliser tous les adultes. Ainsi, on serait débarrassé des gitans. Ils ont commencé leur entreprise.
Leur travail de
Et
Johann
Trollmann a accepté d'être stérilisé pour sauver la fois ce qui restait à sauver, c'est-à-dire sa femme et sa fille qui
voilà,
n'étaient pas gitans.
Voilà, parce qu'il s'était marié et
voilà.
il avait une petite fille
Donc
pour les sauver.
Il s'en est séparé pour les sauver.
Il s'en est séparé, oui.
Et il les a cachés et lui-même
c'est dur,
a poursuivi son destin.
C'est,
oui.
c'est un destin quand même.
On croit que j'ai forcé le trait, pourtant
non,
c'est pas vrai. Donc c'était une star.
Ouais.
Il a lancé un dernier défi sur un ring de boxe où on lui demandait de se coucher. Il s'est teint en blond avant de monter pour ce combat.
Oui, il a joué la provocation.
Il a joué la provocation.
Voilà, et donc forcément.
Et il s'est fait rouer de couilles. Ensuite, il n'a été plus bon qu'à boxer dans des foires.
Oui, il a été dans des centres de foires.
Aéré dans des forêts pour se cacher. Puis
il a fait quand même la guerre. Il a fait aussi la guerre contre la Russie.
Et
ils
oui,
l'ont quand même utilisé pour la guerre du front de l'Est.
Mais pourquoi ? Parce que sur le front de l'Est, ça chauffait pour la Wehrmacht. À un moment, il ne restait plus d'hommes valides en Allemagne, hormis les vieux. Et les gitans qui, avant d'en être éjectés, étaient souvent des hauts gradés de l'armée. Donc ils ont rappelé tout ce beau monde, ils ont été chercher tous ces gens-là, ils les ont jetés comme chair à canon sur le front de l'Est. Johann Trollmann y a été blessé, puis il est rentré blessé, aussitôt
oui.
repris par la Gestapo pour
Et
être
là,
jeté
envoyé,
dans un camp de concentration à Neuengamme.
À Neuengamme, alors Neuengamme c'est au bord de l'Elbe.
Oui,
ah,
c'est le grand camp du Nord.
C'est un camp de travail, en fait, qui était pour les personnes qui pouvaient être, les délinquants qui pouvaient être rééduqués.
Au début, mais ensuite,
voilà.
C'était un camp d'extermination par le travail. C'était un véritable camp de concentration que j'ai bien connu, enfin, par le travail sur mon grand-père, puisque c'est
oui,
là qu'il a fini, lui aussi.
Lui aussi, hein.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Ouais, donc ça vous a, c'est un peu, oui, comme vous le disiez au début,
oui, donc,
c'est un peu une
oui,
continuité.
C'est pas que je tourne en boucle, mais je tourne toujours autour
oui,
du même sujet
ça,
qui m'obsède.
Voilà. Ouais. Et donc, il est mort en 1942, Johann Trollmann, donc, comme vous le disiez, une balle dans la tête, version non officielle.
Oui, parce qu'il
parce
s'en servait
qu'il
de chiffre molle, de
voilà.
punching ball.
Il servait de punching ball aux nazis, en fait,
oui.
aux gardiens du camp.
Qui l'ont reconnu.
Ah, la flèche d'or, oui, voilà,
dans
on
les
va
camps,
te faire danser.
Dans
et
les
voilà,
camps, certaines victimes, on s'en servait pour s'amuser, on leur faisait danser des gigs à cloche-pied, on s'amusait avec les prisonniers comme ça. Et tomber sur un champion de boxe, c'était
oui.
une aubaine. Donc,
les musiciens jouaient de la musique. Bon, ben, le boxeur, forcément, on faisait des paris,
voilà
contre, donc, pour lui ou contre lui.
Il pesait plus lourd, donc c'était bien facile de le taper. Un jour, il a filé un nion à un de ses adversaires.
Et
aussitôt après,
et oui, forcément,
une balle dans la nuque.
Ouais.
Pour
bah oui, parce qu'il fallait pas, voilà,
il fallait
qu'il reste. Il fallait qu'il reste à l'état de punching ball, pas.
Oui, c'est ça.
Écoutez la musique que je vous ai choisie, Greg Lamazère, pour se quitter sur cette émission. C'est... Vous reconnaissez, vous en parlez dans votre livre. difficile à entendre peut-être.
Moi, je n'ai pas de casque sur les oreilles, mais...
Voilà. C'est ça, c'est Human Being de Seal. Oui. Vous en parlez dans votre livre et j'ai voulu qu'on se quitte sur, sur cette jolie chanson.
En effet, à la fin de mes livres, je mets toujours la bande-son qui m'a servi, une bande-son partielle parce que je ne me souviens pas de tout, qui m'a servi à me mettre dans l'ambiance.
Dans l'ambiance. Alors, les livres aussi, les livres que vous avez utilisés.
Curieusement, Seal, ça ne semble pas s'adapter. Pourtant, dans l'album Human Being, il y a quatre chansons qui secoue vraiment et qui m'ont aidé dans l'écriture de ce livre. Et puis il y a d'autres musiques. Hein.
Bien sûr. Donc c'est le petit clin d'œil pour terminer l'émission.
Merci.
Alors on n'aura pas eu le temps de lire la quatrième de couverture, mais les auditeurs n'auront qu'à
aller en librairie pour
la trouver. Dernier round à Neuengam aux éditions Priva de Greg Lamazère. L'histoire donc de ce boxeur allemand Zigan, Johann Trollmann. Vraiment un très bon livre que je conseille à tout le monde. Merci Greg.
Merci Claire.
Et puis je vous attends pour votre prochain livre. Hein. Je compte sur vous. N'arrêtez pas d'écrire.
Dans 15 ans.
Oh non, avant. Moi, dans 15 ans, je ferai peut-être plus d'émissions.
Et non.
Bon, en tout cas, merci Greg et à bientôt. Merci. Au revoir. On se retrouve la semaine prochaine. Restez fidèles au programme de Radio Occitanie. Adiciats.